Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous choisir sur la 93.5. 68% des réserves administratives sont occupées illégalement par des citoyens. Le gouvernement donne un an à ces occupants illégaux de réserves administratives de libérer ce qui est à l'État. Comment l'État pense y parvenir? Où était l'État avant que ces réserves ne soient occupées illégalement? Je poserai la question à mes confrères journalistes en studio ici avec moi. Nous abordons aussi d'autres sujets liés à la sécurité routière en cette fin d'année et aussi alors de l'environnement avec la fin d'année justement et aussi nous parlerons de l'environnement j'allais dire avec la fin des travaux de la COP 29 à Bakou en Azerbaïdjan où 300 milliards de dollars étaient alloués alors pour les pays en voie de développement sommes qualifiées insuffisantes. Merci de nous choisir dans cette émission Club de la presse de ce lundi 25 novembre 2024. Et Michel Kokou, Vitor Betomega assure la mise en onde. Jérôme Dakoutia était la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Merci de nous suivre à l'intérieur du pays à travers nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Nous sommes aussi heureux de savoir que vous nous suivez partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous nous suivez aussi sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Jacques Dakouti, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer ceux qui nous écoutent actuellement. Certains sont dans leur bureau. Certains devant leur étalage, peut-être certains au niveau des hôpitaux, dans les cliniques. La diaspora togolaise, je vous salue et je souhaite à chacun, à chacune une excellente semaine bénie. Et Pascal a invité également nos compatriotes. C'est vrai que les temps sont difficiles, mais le constat aujourd'hui, Pascal, c'est qu'il y a trop de divorces. Il y a trop de divorces au sein des couples. C'est vrai qu'il y a deux facteurs qui militent à ça, mais il faudrait que nous puissions, en tant qu'êtres humains, nous pardonner.
Lorsque... Quels sont ces deux facteurs?
Le premier facteur, c'est le facteur moyen, c'est-à-dire l'argent. Ouais. Et l'autre facteur, c'est que c'est l'incompréhension souvent, et souvent la fidélité de l'un ou de l'autre. Soit l'homme qui est infidèle, soit la femme qui est infidèle, et des fois, ce qui vient corroborer souvent... C'est les parents qui rentrent en jeu, c'est-à-dire toujours les belles-mères. Lorsque surtout l'enfant ne vient pas vite, les belles-mères s'immiscent dans ces foyers pour demander à leur enfant d'aller voir ailleurs. Et ça constitue également des problèmes. Et souvent, c'est des divorces qui arrivent. Donc, je voudrais sincèrement demander aux uns aux autres, lorsque le pire arrive, il faudrait que nous puissions garder le calme et chercher effectivement la solution aux problèmes que les couples traversent. Le divorce n'est pas la meilleure chose. Vous savez, c'est vrai qu'arrivé à un moment donné, les gens ne s'entendent pas. La meilleure des choses, c'est de se séparer. Mais lorsque vous vous séparez et vous laissez des enfants, Pascal, à qui la responsabilité, à vous remettez cette responsabilité-là, aux enfants, là, à qui? Donc, une fois encore, du calme, lorsque les problèmes subissent dans les foyers. C'est vrai que les tempêtes vont souffler, les vents vont se lever, mais du calme si ces choses-là arrivent.
D'accord. Et vous l'avez si bien dit, le divorce n'est pas la meilleure des solutions. Et je sais que les pasteurs font un travail énorme pour que le divorce n'arrive pas. N'est-ce pas le pasteur Didier Assogba?
D'abord, bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM, bonjour à mon aîné Jacques en studio, bonjour à tous les auditeurs, tous ceux qui m'ont contacté la dernière fois quand vous aviez eu annoncé la mauvaise nouvelle par ici. Donc, mes reconnaissances à tous ceux qui ont pensé à moi et à la famille. Et c'était dur, mais on essaie de surmonter.
Tout à fait.
Oui, sur la question du divorce, je pense fondamentalement que, comme Jacques le disait, il y a beaucoup de facteurs. Et c'est justement des moments pareils qu'on voit l'utilité des hommes de Dieu, de l'Église, des congrégations, qui font tout pour que le pire n'arrive pas. Parce que le pire, c'est qu'on arrive à une rupture totale du banc. Qu'on n'arrive pas à se comprendre et que les gens qui ont une certaine vie ensemble, d'ailleurs même une vie qu'on ne peut pas effacer, décident un jour de ne plus continuer ensemble, alors que, surtout s'ils ont des enfants, ça devient très compliqué. Si vous êtes ou vous connaissez des enfants qui sont issus de ménages pareils, où des parents vivaient ensemble, un jour se sont séparés, vous savez, c'est... Moi, l'ayant vécu, c'est quelque chose que je peux jamais souhaiter à quelqu'un. C'est très compliqué. Et la vie de l'enfant, la vie des enfants n'a véritablement pas de sens. Et
donc, tu as eu une éducation monoparentale.
Oui, monoparentale, selon qu'il est avec l'un des parents.
Tout à fait.
Ou carrément une éducation abandonnée, selon que l'autre parent l'envoie. Chez une connaissance et tout. Et donc ça devient complètement un enfant s'il n'a pas les repères et s'il n'a pas la grâce nécessaire pour continuer son cursus, un enfant qui perd les repères, et ça devient tout un problème dans la société. Et donc je pense fondamentalement que des hommes de Dieu, nous leur reconnaissons des fois ces talents-là de pouvoir ramener, de pouvoir réconcilier la plupart des foyers, n'eût été eux d'ailleurs, on aurait pu avoir plus de divorces, comme ce que Jacques n'annonce tout à l'heure. Et donc oui, quand je dis homme de Dieu, je le dis dans tous les sens. Peut-être que d'autres obédiences également font des efforts pour que ça n'arrive pas, parce qu'on ne peut pas souhaiter que des gens qui se sont dit oui, qui ont décidé de se mettre ensemble pour une incompréhension un jour, mettre du désordre dans leur vie, parce que divorcer, aller se reconstruire, ça devient tout un problème. Et donc, on est à la fin de l'année, nous allons beaucoup plus prier, comme Jacques le disait, que le facteur moyen ne manque pas, et que pour un riz ou pour l'huile ou quelque chose, les habits que les enfants doivent porter à la fin de l'année, des gens n'aillent pas dans les incompréhensions qui aboutissent finalement à des séparations.
Nous souhaitons cette solidité, surtout à l'heure du foyer, et c'est la compréhension mutuelle, ça tout le monde le dira, mais il faut, pour que vraiment le foyer soit solide, et il faut justement cette compréhension mutuelle entre les deux partenaires. Et je sais que cette compréhension mutuelle est là au niveau alors de Gosson qui est pépé aujourd'hui. Ça veut dire que, allez, la compréhension mutuelle a demeuré jusqu'à ce que même sa fille ne fasse alors un enfant. Alors, Gosson, bonjour.
Bonjour, Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Bonjour, ça va, je rends grâce. Je dis bonjour à mes confrères.
Merci. Et on est toujours heureux d'être pépé, hein? Parce que je lis toujours cette fierté, ce bonheur dans ton visage quand je te vois souvent en parler.
Bon. Pour être honnête avec toi, si je ne devais tenir compte de ma poche, ce ne serait pas une mine renfrognée, mais une mine désappointée, perdue. Seulement, il se trouve que les sous, l'argent, ne font pas tout. Surtout par rapport au fait de voir une vie venir dans ce monde. Ça n'a jamais et ça n'aura jamais, jamais, jamais de prix. Voilà. Donc, mon bonheur, ma bonne humeur se comprend.
Ça, c'est clair. Voilà. Et ça se comprend. Et notre prière aussi, c'est que nous arrivions aussi là pour avoir ce bonheur aussi. Alors, nous allons aborder notre premier sujet. Notre premier sujet, c'est bien la sécurité routière. On se souvient déjà la semaine passée, et on a noté quand même sur nos routes deux grands accidents, j'allais dire. D'abord à Kodesewa et l'autre, c'est à Diablé. À Kodesewa, on estimait le nombre de morts à 9. À Diablé, il y a un communiqué du gouvernement, du ministère de la Sécurité, qui a bien situé les faits et parle alors de pratiquement 3 morts et également des blessés. Alors, Jacques, Est-ce que finalement vous arrivez à comprendre? Est-ce que c'est parce que nous sommes à la fin d'année? Vous arrivez à comprendre même d'ailleurs ces accidents que nous observons déjà sur nos routes?
Pascal, quelqu'un te dira quel est le rapport entre la fin de l'année et les accidents. Elle a dit que nous vivons tous les jours, nous sortons, nous revenons. Mais le problème, c'est l'imprudence, au fait. Tous les débats à ce niveau. Et l'autre aspect, c'est que les gens ne veulent pas rouler d'une façon, respecter le code de la route. Et on n'est pas aussi souvent patient lorsque nous sommes au volant. Elle a dit que nous sommes des cercueils roulants quand nous sortons, mais les gens ne le savent pas. Les gens pensent que quand ils sont dans leur voiture, dans leur 4x4, ils sont en sécurité. Non. Tout peut arriver, Pascal. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Je vous ai dit une fois ici que j'ai assisté vis-à-vis à un accident où un monsieur est revenu de l'Europe. Le matin, il est sorti pour faire son jogging et un véhicule passait. Le véhicule a déraillé, allait tuer le vieux là sur le trottoir. Oui, le vieux est mort sur le champ alors qu'il est revenu de la Suisse pour ses vacances de 2 semaines qu'il a pris. Mais finalement, il est mort comme ça. Non, c'est pour vous dire que quelque part, vous savez, il faut que nous soyons prudents. Nous sommes prudents. C'est vrai que le gouvernement tout le temps tire la sonnette de l'alarme pour dire attention, attention. Mais la meilleure sécurité, c'est nous-mêmes, Pascal. C'est nous-mêmes. Voyez tout ce que les responsables de l'auto-école nous enseignent et tout ce que nous recevons. C'est vrai que certains n'y vont même pas à l'auto-école. On vous dira que certains reçoivent même leur permis à la maison. Je ne sais pas si c'est vrai, cette information que les gens véhiculent. Mais il est important aujourd'hui que lorsque nous sommes sur notre moto, notre vélo et la voiture, soyons prudents. Hein? Soyons prudents. C'est la première mesure d'abord. Si nous sommes prudents, et vous allez voir que nous allons éviter beaucoup de choses. L'autre aspect également, nous avons constaté, j'ai vu constater personnellement lors d'un accident qui est survenu, quand le monsieur est sorti, on lui a posé la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit que lui, il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais qu'il a un souci, il a un problème avec sa femme. Mais dès que vous avez un problème, Pascal, ne prenez pas le volant. Si vous avez un problème, laissez le volant de côté. Si vous pouvez louer un taxi ou prendre une moto, d'accord. Mais si vous avez des soucis, vous prenez le volant, attendez-vous à ce genre de choses. L'autre aspect, c'est comme je l'ai dit, les gens ne maîtrisent pas aussi le code de la route. Ça, c'est un autre aspect également. Et il y a également la question de l'alcool. Les gens boivent avant de prendre le volant. Et surtout ceux qui font les longs voyages, surtout la nationale numéro 1, Pascal, quand vous voyez les compagnies que nous avons, je ne vais pas citer des compagnies ici, mais quand vous voyez les chauffeurs là rouler avec ces bus-là, vous posez des questions. Mais ils sont où? Ils pensent que nous sommes sur l'autoroute? Non! Donc je crois qu'il y a tous ces aspects-là qu'il faut revoir. La meilleure sécurité, comme je l'ai dit, c'est toi-même d'abord ta sécurité. L'État ne viendra pas assurer ta sécurité. En matière, si tu es sur ton volant, c'est d'abord toi-même qu'il faut savoir aller avec ton volant, aller avec ta voiture, ta moto, avant que vraiment l'aide ne vienne de quelque part. C'est vrai que quand nous prenons le volant, nous prions que Dieu nous conduise, qu'il nous ramène sain et sauf. Tu as prié, mais il faut que tu sois prudent avant que Dieu ne t'aide.
D'accord. Oui, disais, c'est vrai que Jacques posait la question tout de suite de savoir quel est le rapport entre la fin d'année et les accidents de la route. Mais le constat est fait et c'est clair aussi que déjà on voit une récurrence de ces accidents de la route à la fin d'année. Est-ce que on va pas établir aussi un rapport en tant que tel?
Oui, bon, de toute façon, si c'est difficile d'établir le rapport de façon objective et de façon réelle, il y a naturellement d'autres facteurs, peut-être métaphysiques ou d'autres choses qui entrent naturellement en jeu, où ce n'est pas seulement cette année, mais il y a bien des années, Gosson ayant la barbe assez grise, pourra bien confirmer ce que je dis. Depuis belle lurette, quand on arrive à des périodes pareilles, il y a une multiplicité d'accidents de la route qu'on arrive à peine à expliquer. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas, et des choses même, comme Jacques le dit, que personne ne peut expliquer, ni le chauffeur, ni ceux qui ont assisté ne peuvent pas expliquer pourquoi est-ce que finalement on a abouti à un accident avec mort d'homme. Donc, il y a également cet aspect qu'il faut naturellement prendre en compte. Donc, à part la prudence, Il a bien dit, il faut beaucoup plus de la prière également. Mais si nous allons être dans les considérations de tous les jours, c'est voilà, il a parlé de non-respect du code de la route et les imprudences de fin d'année. Certains sont assez précis sur la voie, d'autres ils sont même pas sur la voie quand il y a certains là, vous les voyez carrément, eux ils ne sont même pas sur la voie.
C'est-à-dire ils sont là de corps,
ils sont là de corps, mais d'esprit ils ne sont pas là. C'est des gens qui sont submergés par des soucis. Ils sont là sur leurs engins. À peine même des fois, si vous osez klaxonner pour ces gens-là, c'est maintenant que vous provoquez l'accident. Donc il faut leur donner tout le temps jusqu'à ce qu'ils reviennent sur la voie avant de dégager. Et donc il y a ces considérations aussi, mais n'oublions pas également que nous avons beaucoup de nos rues ou de nos routes qui ne sont pas assez larges et donc sur lesquelles le moindre risque conduit directement à un accident. Et je pense que quand vous évoquez le cas d'Akoresewa, c'était justement le cas parce que la route, ce qu'il y a là-bas, tous ceux qui empruntent cette ruelle-là, vous pouvez savoir que ça, là, maintenant, normalement, ça ne doit plus être une voie où on va, on revient. Mais puisque c'est comme ça, le moindre risque, le moindre faux pas pose justement ce problème. Et le communiqué du ministère de la Sécurité sur ce qui est arrivé sur la route de Diagbé également, si vous voyez l'endroit où on décrit justement au niveau du pont sur la rivière Zion, c'est justement des endroits où les moindres risques conduit à des situations pareilles, c'est-à-dire la voie n'est pas large, le pont n'est pas large, et donc du coup, le moindre risque, soit c'est une collusion, soit c'est voilà quelqu'un qui frôle l'autre et qui tombe. Quand on parle de camions et quand on parle de tricycles,
vous imaginez ce que ça fait de
l'ampleur du dégât justement. Et donc il y a tous ces facteurs là mis ensemble. Mais maintenant qu'on y est, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas d'ici au 31 décembre élargir nos routes. Donc ce qu'il faut faire, ce qu'on peut dire aux uns aux autres, c'est que nous puissions beaucoup plus nous armer de prudence et beaucoup plus de prières pour ceux qui prient également, sachant que on est à la fin d'année et que des phénomènes pareils vont se multiplier et des fois même de façon inexplicable.
D'accord. Gosselin, est-ce que vous arrivez à comprendre quand même cette imprudence sur la route ou le manque même du respect ou le non-respect, j'allais dire, du code de la route et qui des fois amène à ces accidents?
Bien, merci Pascal. Une fois encore, je ferai preuve de franchise. À Diagbé, l'accident pour lequel le ministre a sorti un communiqué. Je crois que ça mettait aux prises un tricycle avec un véhicule. À ce jour, pouvons-nous nous assurer que tous les conducteurs de tricycles ont leur permis de conduire? Les véhicules de transport de sable et autres, pouvons-nous nous assurer que leurs visites techniques sont à jour et que on leur délivre l'autorisation par rapport au bon état du véhicule, ou alors ce ne sont pas des dessous de table que les visites techniques sont délivrées? Ça aussi c'est une autre chose, parce que même concernant les conducteurs de taxi moto, au départ je n'étais pas très pour, mais aujourd'hui il est impératif que celui qui doit aller avec des engins à deux roues ou à quatre roues détienne un permis de conduire. C'est vrai, le permis de conduire ne fait pas le bon conducteur. Ça, c'est vrai. C'est comme le bon journaliste, c'est pas celui-là qui va à l'école de journalisme. Mais toutefois, c'est un béaba pour qu'on sache que, au moins en matière de code de la route, tu t'y connais un peu. Mais si aujourd'hui on constate ces accidents, tout à l'heure vous demandiez si ça a rapport avec la fin de l'année. Pour mieux répondre à cette question, nous devons tourner notre regard vers le ministère de la Sécurité, puisque tous les trimestres ou semestres, ce ministère sort des rapports, des statistiques sur le nombre d'accidents au cours du semestre. Donc, emparons-nous de ces statistiques-là pour pérorer, pour argumenter. je ne peux pas d'ici dire que c'est vrai en fin d'année. Non, seules les statistiques pourront nous le dire. Mais une fois encore, quel que soit l'état de la route, on dit souvent que la route du développement...
On passe par le
développement de la route. Le développement de la route ne doit pas conduire à la multiplication des morts. Une route demeure elle-même, qu'elle soit large ou qu'elle soit rétrécie, elle est appelée une route. Le premier et seul responsable des accidents, c'est l'humain. On ne m'enlèvera pas de la tête comme quoi il y a d'autres facteurs, certes, mais le premier, c'est l'homme. Feu, mon petit frère, il est mort en 1993, qui disait, Gosson, quand tu sors sur la route, considère tout le monde comme étant des fous. Que toi seul, tu es lucide. Ça veut dire quoi? Que ce soit devant, que ce soit derrière, à travers le rétroviseur, à gauche ou à droite, tout peut arriver. Donc, en ayant ça en tête, et par la grâce divine, tu dois pouvoir faire très attention. Je ne dis pas que tu ne peux pas filer. Oh, je vous mentirais. Il y a certains jours, quand je vais quelque part et que je vois que la route est dégagée, elle m'appelle. Oh oui, je teste bien le moteur. Mais ça ne veut pas dire que je conduis de façon inconsciente. Non. La route est faite pour rouler là-dessus. Mais nous devons faire attention. Autrement, la responsabilité première nous incombera toujours.
Jacques, c'est vrai que quand on prend certaines routes, c'est vrai, nous décrions ou nous critiquons même d'ailleurs l'état de certaines routes, mais quand on est arrivé à bitumer ces routes, finalement, c'est ces routes qui sont devenues alors
accidentogènes.
Accidentogènes, bien sûr.
Oui, on se pose la question, est-ce que l'état a mal fait de bitumer ces voies? C'est la question qu'on se pose. Moi, je suis sur la route d'Adido-Gomé. Mais quand vous prenez ce tronçon-là, Pascal, si vous voyez le nombre d'accidents sur cette route, mais avant, il n'y avait pas ces accidents. Mais le fait de bitumer cette voie, je ne sais pas si c'est un péché que le gouvernement a commis le fait de bitumer la voie. Comme on l'a dit, Pascal, c'est nous d'abord. C'est nous. L'imprudence, c'est nous. Elle dit que souvent, il y a un adage en éveil qui dit que le fait d'aller vite peut te conduire à port, au bon port. Le fait d'aller également doucement peut également te conduire au bon port. Mais ce que nous constatons, les gens sont pressés. On ne sait même pas où est-ce que les gens vont. Pascal, les gens sont pressés. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont. Quand tu as par exemple un rendez-vous, Pascal, tu sais que le rendez-vous c'est à 6 heures. Mais ce n'est pas à 5h50 que tu vas te lever. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Oui, mais
donc,
je comprends.
Il faudrait que nous soyons prudents. C'est-à-dire qu'il y a, lui, le problème, il y a également l'état de nos routes. Quand vous prenez, par exemple, la nationale numéro 1, Pascal, il y a les titans, il y a les bus, il y a les tricycles, il y a les motos, il y a les vélos, il y a les bœufs, les chèvres, les moutons et les piétons. Tout sur la nationale numéro 1. Donc, si vous n'êtes pas prudent sur cette voie-là, Pascal, c'est des accidents que ça crée. L'autre aspect, comme on l'a dit, la route n'est pas bonne. Et comme la route n'est pas bonne, il faut être prudent. Moi, je voudrais encore une fois inviter le ministère des Transports. Malheureusement, on n'a plus le ministère des Transports. C'est un ministère qui est rattaché à la primature. Mais je ne sais pas si il y a... Bon, il y a quand même le directeur de cabinet du ministère des Transports qui peut faire également ce travail. Il faut une sensibilisation avec la compagnie des bus, Pascal, qui emprunte cette voie-là, jusqu'à 5 ans, c'est. Quand vous voyez les chauffeurs la conduire, parce qu'elle vous pose des questions. Et puis, c'est des enfants, hein, c'est des jeunes, 22 ans, 23 ans. Ils ne sont pas âgés quand vous les voyez au volant. Et souvent, qu'est-ce qu'ils font pour démontrer qu'ils savent conduire? Vous allez voir, des fois, ils sortent leur tête. Je ne sais pas s'ils veulent prendre la fraîcheur ou bien qu'est-ce qu'il faut, ils veulent regarder. Mais à une seconde, presque, vous ne savez pas faire. Le bus risque de rentrer dans les ravins. Donc, je crois qu'il faut que le ministère des Transports sensibilise une fois encore ces transporteurs de bus-là qui vont à l'intérieur du pays. À les voir conduire, Pascal, c'est vraiment difficile. Donc, je crois que, comme on l'a dit, c'est vrai qu'il y a l'état des routes, Mais le premier responsable, c'est d'abord nous. Lorsque nous prenons, par exemple, le volant, dites-nous que la route soit bonne, que la route ne soit pas bonne, c'est à nous d'être prudents et de savoir où on va.
D'accord. Disiez, oui, l'État doit sensibiliser, mais au-delà de la sensibilisation, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui aussi sanctionner ? Parce que on voit des imprudences alors sur la route et que finalement, quand on prend même en agglomération, il y a un certain nombre de kilométrages à observer, mais il y a des gens qui n'observent pas alors ces kilométrages, mais ils sont là et qui constituent même d'ailleurs un autre danger pour les autres qui sont des usagers de la route.
Oui, oui, l'État va sanctionner, mais est-ce que nous avons autant de policiers, autant de gendarmes à mettre derrière chaque automobiliste?
Mais avec le peu que nous avons.
Oui, avec le peu que nous avons, on va pas jeter la pierre non plus aux forces de l'ordre et de sécurité. Elles essayent de faire ce qu'elles peuvent faire, même si on attend encore mieux de leur part. Et on se demandait également si elles ont tous les moyens nécessaires pour parvenir à l'étape que tu soulèves là. Donc oui, on est tous d'accord que si on n'arrive pas à sanctionner des gens, si on ne fait pas de bouc émissaire, il n'y aura pas de sagesse chez tous les conducteurs sur la voie. Donc il faut justement que des fois, quand on prend un certain nombre de contrevenants, qu'on puisse leur coller des amendes et que à partir de ces amendes-là, ça s'agisse. Si on n'arrive pas là, ça va être compliqué. Mais au-delà de la sanction à coller aux gens, il faut justement que nous, chacun de nous également, prenne conscience que même quand on nous colle des amendes, l'amende, oui, on va peut-être payer, ça rentrera peut-être dans les caisses de l'État. Mais quand toi, tu vas perdre ta vie, quand le policier ne t'a pas vu ou le gendarme ne t'a pas vu pour te coller une amende et que tu vas tomber, tu perds ta vie, quelle amende ou quel autre, voilà, qui va te rembourser ta vie après? Je pense fondamentalement que c'est en ce sens-là que nous devons continuer, chacun en ce qui le concerne, à multiplier les efforts de sensibilisation des uns et des autres pour qu'il y ait beaucoup plus de prise de conscience dans la circulation et que les motocyclistes ne se prennent pas pour les maîtres de la voie et roulent partout où ils veulent et qui font d'ailleurs leur loi parce que d'ailleurs eux, quand eux ils vont tomber, ils sont les premiers qui meurent parce que ils ont pour carrosserie leur peau directement. Et donc il faut justement qu'on fasse comprendre aux uns aux autres que si quelque chose arrive, le risque premier c'est que vous allez pouvoir mourir. C'est le risque premier, c'est pas que le policier va venir vous coller une amende. Donc, si des gens ont peur de la mort, ils feront beaucoup plus de prudence. À moins que, bon, on est arrivé à un Togo où les gens n'ont plus peur de la mort, où ils ont plutôt peur du policier et du soldat. Donc, justement, il faut des amendes, mais il faut que chacun continue de prendre conscience que c'est ma vie d'abord. Et si je mets ma vie en danger, je mets également la vie des autres en danger. Et donc, quand on va prendre conscience, on va respecter les dispositions du code de la route. Et quand on va les respecter, on n'aura pas non plus d'amende à payer parce qu'on ne va pas enfreindre les dispositions du code de la route.
Je parlais de la responsabilité de l'État aussi dans cette question alors des incidents lors de la route. Parce que oui, entre-temps, on a vu quand même qu'il y a des forces de l'ordre qui étaient avec des radars que nous avons vu alors dans la circulation. Mais finalement, ces radars ont disparu. On ne voit même plus alors ces forces de l'ordre également. Mais ce sont des choses quand même qui devaient normalement réglementer aussi la route. La circulation.
Oui, c'est vrai que l'effectif au sein de la police et de la gendarmerie ne permet pas de couvrir tout ce qu'il faut couvrir. Mais alors, pour le peu qui sont déployés, qu'est-ce qu'ils font? Je vais encore être un peu plus cru. Je veux parler de la DSR qui est déployée pour contrôler l'état des véhicules, l'état des pièces et autres. J'essaie d'observer quand un agent de la DSR arrête un taximan, il ne vient jamais au devant de la voiture. Il reste toujours derrière. Vous savez pourquoi? Parce que quand le chauffeur va sortir pour aller présenter ses pièces, le billet est toujours en dessous des pièces. Et donc, il n'aime pas empocher le billet, encaisser le billet sous les regards des passagers. C'est pour ça que toujours ils sont derrière. Je sais que ce que je dis est grave, mais c'est la vérité. Je l'ai filmé, mais je ne peux pas le publier. C'est une réalité. Pourquoi? Mais je précise que dans le même temps, il y a des agents qui, quand ils t'arrêtent et que tu es en infraction, mais que tu donnes des arguments, ils vous remettent vos pièces et vous partez sans prendre un sou. Ça, c'est le boulot. C'est l'humain. Mais ceux-là qui, quand le véhicule n'est pas en surcharge, ou oui, n'a pas transporté beaucoup de bagages, ils ne sont pas contents. Parce qu'il faut qu'il y ait surcharge pour justifier le fait qu'ils perçoivent. Est-ce que quand il y a surcharge, les 1000 francs là ou les 2000 francs qui vont sécuriser la voiture, puisque après avoir perçu, ils laissent le chauffeur repartir. Ce que je dis, je le répète, c'est grave. Mais nous tous, nous savons que c'est une réalité. Comment faire pour réglementer cet aspect-là aussi? C'est important. Pour ce qui est de la limitation des vitesses et autres, du moment que l'usager comprendra que c'est d'abord sa vie, le policier qui est sur la route là, c'est pour le surveiller, voir s'il est, il dépasse, il est en excès de vitesse et autres. Tant qu'il n'aura pas compris qu'il faut dépasser cela pour arriver à un moment où la circulation doit s'auto-réguler, on comptera toujours les morts. Parce que le policier, il n'est pas fait que pour ça.
Le policier n'est pas fait que pour ça. Merci beaucoup, cher confrère. Nous allons quitter le sujet. On aborde un autre sujet. Je l'évoquais déjà dans mes mots introductifs. Jacques, il y a un communiqué conjoint alors de trois ministères pour ce qui concerne les réserves administratives. C'était la semaine dernière. Et dans ce communiqué, nous lisons que 68% des réserves administratives sont illégalement occupées par des citoyens. Mais on a envie de savoir, de poser la question de savoir où est-ce que l'État était avant quand même que cette grande marge de réserve administrative soit occupée par des citoyens.
Non, je crois que c'est le laxisme, au fait. C'est-à-dire on a laissé faire, peut-être que c'est un frère, un ami, un cousin, une tante, et on a laissé faire. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rappelez du discours du chef de l'État, je sais pas si c'est en 2015 ou 2016, où il disait que le problème de terre constitue une bombe à retardement dans ce pays. Je sais pas si vous rappelez de ce discours. Je l'ai suivi. Et quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec cette note des trois ministres, on comprend effectivement qu'il y a un problème. Pascal parlait de 68% des terres occupées, que c'est des réserves. Vous voyez que c'est plus que Lomé. C'est-à-dire que on se dit que la plupart des occupants de Lomé sont sur
des réserves administratives.
Des réserves administratives. Et vous avez bien fait de poser la question. L'État était où? L'État était où? Et l'État a laissé faire. On vous dirait également que vous savez que ce n'est pas pour vous, vous êtes allé occuper. C'est une réponse également que l'État peut donner. Parce que l'État se dit, mais nous on sait, à un moment donné, on va frapper. Et c'est ce que l'État est en train de faire actuellement. Mais le constat aujourd'hui, Pascal, c'est que quand vous voyez la plupart de ces réserves qu'on dit que les gens ont occupées, Pascal, ce n'est pas quelqu'un comme toi ni moi qui pouvons occuper ça. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est vrai qu'il y a certains qui ont morcelé ces réserves-là et qui ont commencé par les collectivités, quoi. Il y a certaines collectivités qui ont morcelé également ces réserves avec les géomètres véreux et qui ont commencé également par vendre également ces réserves. On sait, on a vu, on a entendu. Ce que je dis sur cette antenne, je n'invente rien. On a vu une personnalité dans ce pays qui avait dit que là où elle habite également, elle sait. Mais on lui a donné, elle est là-bas. Ça, tout le monde, c'est connu et dessus de tout le monde. Et puis Pascal, Vous savez, quand vous circulez un peu dans Lomé, dans le temps, dans les années, je me dis, dans les années 90-92, vous allez voir que partout à Lomé, il y avait les aires de jeu où les enfants s'amusaient. Vous allez voir les gens jouer dans les quartiers. Mais circulez aujourd'hui. Vous n'allez plus trouver un terrain de jeu à Lomé. Tout est occupé. Parce que c'était des réserves. Mais finalement, c'est vrai que si on vous dira que la nature aurait du vide, du moment où les gens en ont besoin et puis c'est là on ne fait rien, les gens vous diront que comme l'État ne voulait pas, eux ils ont voulu aider l'État. Mais en aidant l'État, vous voyez là où nous en sommes aujourd'hui. Donc je crois que la responsabilité aujourd'hui incombe au gouvernement. C'est-à-dire, il faudrait que le gouvernement puisse prendre des mesures. Parce que quand on donne un an aux gens, les gens vont aller où? Les gens vont trouver les terrains où bâtir et déguerpir par exemple de ces réserves. Donc, une chose est de parler de la légalité, une chose est de parler de l'humain.
D'accord. Disais, c'est vrai que on se dit comment l'État va procéder, puisque c'est vrai, l'État a donné, ou les trois ministères qui ont signé même d'ailleurs ce communiqué, ont donné pratiquement un an à ces occupants illégaux de quitter les lieux. Mais comment ça va se passer? Est-ce que finalement, allez, quand le délai va... déjà on sera à la fin lors du délai, l'État va commencer par leur dire que mais vous devez quitter et aller quelque part, ou bien il y aura alors des dédommagements. Et comment ça va se passer? Comment vous entrevoyez un peu la chose?
Honnêtement, je vois pas comment l'État pourra venir à bout de cette histoire. Parce que, vous savez, malheureusement, on ne peut pas se prévaloir des fois de sa propre turpitude, malheureusement. C'est d'ailleurs dans cette logique que nous disons un certain nombre de choses ici, des choses qu'on devrait faire en amont, qu'on ne fait pas. On laisse ça, des choses s'enraciner. Des années après, des décennies après, on veut se rattraper, ça va causer énormément de problèmes. Quand on dit que presque 70% des domaines de l'État, donc des réserves, sont occupés dans le Grand Lomé, vous imaginez ça, qu'on va débarquer à, je dis n'importe quoi, à Noukafou, on va dire un vaste domaine là-bas, on dit des gens là, quittez là-bas, vous allez où? Ils vont aller où et quand? Comment ça va se faire? J'imagine à peu près. On est en novembre là, 2024. Imaginons novembre 2025. Bon, on va déloger, on va raser le quartier. On arrive, il y a des quartiers qui ont même des noms de domaine de l'État, pour ne pas dire réserve. Hein. On a des quartiers réserves un peu partout. Qui est le premier à s'installer là-bas? Est-ce que l'État n'avait pas vu le premier à s'installer? Et Jacques disait d'ailleurs que on a certaines autorités qui sont dans des réserves. Non, on va déloger les pauvres ou les autorités, ou comment est-ce que on va débarquer les bulldozers? Bon, Aboka est toujours quelque part ici, mais bon, on va débarquer les bulldozers pour casser les maisons des gens là, ou comment? Est-ce que il n'y a pas une autre méthode aujourd'hui que l'État doit déployer, vu que il a laissé l'irréparable être commis? Est-ce qu'il n'y a pas, ma foi, une autre méthode aujourd'hui que l'État doit déployer pour justement corriger cela? Voilà la question que moi je me pose, parce que je ne vois pas l'État en train de casser tout un quartier en 2025 pour dire on va récupérer les domaines. Surtout que des gens ont leur vie là-bas, des gens, voilà, vous allez voir, c'est des quartiers qui sont habités aujourd'hui. Donc ça va être très compliqué.
Et peut-être pas qu'ils ont acheté, personne. Oui, peut-être qu'ils ont acheté aussi légalement.
Bon, enfin, je veux pas aller. C'est pour ça que je dis, qui est le premier à s'installer là-bas? Est-ce que l'État n'avait pas vu? Quand les autres venaient, est-ce que l'État n'avait pas vu? Est-ce que même à des endroits pareils là, est-ce que des gens n'ont pas déjà de titre foncier? C'est pour ça que je dis, ça va être compliqué. Certains vont avoir déjà les documents, le titre foncier un peu partout. Oui, l'État peut sortir d'autres tests pour contrecarrer tout ça, mais moi je pense qu'il faut plutôt être dans une autre logique. Il faut adopter une autre logique pour régler cette affaire. Les domaines sont déjà occupés. Et qu'est-ce que l'État fait aujourd'hui pour ne serait-ce qu'amortir sur l'occupation de ces domaines-là, peut-être pour se rattraper ailleurs? Voilà ce à quoi moi je ne pense pas fondamentalement que le Togo dans lequel nous sommes actuellement, avec toutes les difficultés que nous avons et tous les problèmes que nous avons de cohésion sociale, de vivre ensemble, en novembre 2025, on va dire, on va casser des maisons des gens parce que les gens ont occupé les domaines au vu au sud de l'État qui a laissé faire et qui veut aujourd'hui aller peut-être voilà récupérer en causant d'autres torts. Moi, je pense que il faut trouver un autre mécanisme. C'est pas à moi de le dire ici. Même des gens qui vendent des réserves ou des gens qui gèrent les questions comme ça savent que il y a d'autres mécanismes de récupération des réserves. Peut-être pas physiquement, mais je veux pas dire, les gens peuvent payer. Donc, il y a d'autres façons de faire. Je ne vois pas l'État en train d'aller casser tout, parce que c'est pas une ou deux maisons. On va dire, ok, si on casse une ou deux maisons, ça va rien donner. On va aller casser jusqu'à 100 maisons, 200 maisons dans un quartier. Qu'est-ce que ça va devenir? Voilà ce à quoi il faut penser. Donc, nous avons laissé faire. Maintenant, trouvons les moyens, réfléchissons aux meilleurs moyens pour pouvoir régler ce problème-là de façon pacifique. Et pendant qu'on y est, qu'on essaye déjà d'anticiper dans les zones où l'État avait, l'État dormait et l'avait laissé faire ou a commencé par laisser faire, pour qu'on essaye dès maintenant de corriger dans les autres zones, pour qu'on ne soit pas en 2030 en train de dire dans la région maritime 80% des domaines de l'État sont occupés et que bon, dans les zones d'années à venir, dans la région des plateaux, voilà, essayons maintenant de commencer à corriger ailleurs, en essayant maintenant de régler le problème qu'on a dans le Grand Lomé. Je pense que c'est ce qu'on peut faire, mais aller déloger les gens, casser les maisons des gens, je ne vois pas que ça va être la meilleure solution.
Gosson, est-ce que ce ne serait pas un peu paradoxal quand déjà l'État a déjà donné des titres fonciers sur certaines zones, et par après, c'est ce même État qui vient pour vous dire que, mais écoutez, cet endroit-là, cette localité que vous avez occupée, c'est une occupation illégale, et que maintenant, je suis là pour reprendre tout.
Pascal, au risque de contredire Didier, il y a des réserves occupées qu'il faut casser. Je m'explique. Les rues sont les réserves de l'État. C'est ce que beaucoup semblent ignorer. Les rues sont les réserves de l'État. Les gens doivent y circuler. Mais quand un citoyen, conscient que c'est une rue, s'en va ériger un immeuble sur la rue, ou dans la rue, bloquant le passage, comment est-ce qu'on va essayer de négocier ce genre de situation?
Non, Gosson, là, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est carrément autre chose.
Justement, c'est en ça que je dis, okay. Quand on parle de réserve, quand vous allez dans Golf 7, vers Akato, il y a cette situation. J'y suis allé, j'ai vu. Il a construit, il a barré la route.
Même dans le Golf 6 aussi, à Bakita, il y en a.
C'est le cas du Golf 2 qui m'interpelle, qui heurte ma conscience. Parce que quand j'ai approché les riverains de la grande rue de 50 mètres, ils m'ont sorti leur titre foncier sur lequel il était bien visible que c'est une rue de 50 mètres. Mais en 2020 ou 2022, voilà quelqu'un, un richissime, qui a des centaines de camions, qui vient brandir un titre foncier occupant la rue de 50 mètres. Il a pris 5 lots et c'est en ça que je dis qu'il faut nuancer. Quand on dit l'État, il y a trop d'individus qui se cachent derrière ce titre-là pour faire des bêtises. Je vais nommer les DST, les agents de division des services techniques dans les mairies.
Pascal,
appelons un chat un chat. Ils sont complices de tout de bêtises. Donc, si l'État veut régler les choses, je serai à sa place. Je ferai passer les agents de la DST dans toutes les mairies pour qu'ils se justifient. Vous saviez que cette partie est une rue. Vous êtes venu, vous avez constaté qu'on a érigé un bâtiment là-dessus. Quelle a été votre réaction? Parce qu'il y en a qui encaissent, qui prennent de l'argent et se taisent, ils ferment les yeux. C'est un agent de la mairie qui m'a parlé de ça, qu'il faut qu'on tense les agents de la DST pour complicité. Donc, parlant de réserve là,
oui.
Dans les 68%, je ne sais pas le taux qui est alloué aux rues.
Exactement.
Mais pour, au moins pour les rues là, ils savaient avant de l'ériger. Et on va aller plus le pouvoir au service de, du cadastre. Qui sont ceux qui donnent les titres fonciers? Mais leur doit sonner pour qu'ils viennent répondre de leurs actes. C'est trop facile. C'est pas parce que tu es agent de la fonction publique qu'on ne peut pas mettre fin à ta fonction ou alors t'obliger à rembourser la bêtise que tu as commise. En ce qui me concerne, il y en a qui doivent être dégagés. Ça, c'est clair. Vous allez approcher des maires, ils vont vous confirmer que ça, là, ça doit être dégagé. Voilà.
Non, mais ils étaient où? La question, c'est clair. Où avant que cela ne se passe?
C'est clair ce que Vincent dit.
Oui.
C'est clair. Ça veut dire que il y a un travail à faire à deux niveaux.
Oui.
Ou même à trois niveaux, si vous voulez. Il parle d'ailleurs des agents de la division de la surveillance
de
services techniques dans les mairies. Il faut justement aller voir à leur niveau. Parce que c'est eux, justement, qui connaissent ces domaines-là. Mais c'est eux qui autorisent les gens.
C'est ça.
Si c'est eux, il faut les questionner. Il faut faire ce travail-là pour voir au niveau de tous les maires qui sont les gens qui sont derrière ça. Après, il faut voir au niveau du cadastre pour voir après, maintenant, où sont les rues, où sont les... Voilà, il faut qu'on les récupère. Maintenant, moi, quand je disais que les gens ont érigé des habitations, vous comprenez le sens dans lequel je le disais. Donc, des gens, une famille modeste, quelque part, qui a acquis un demi, quelque part, là-bas, pour construire une maison, et qui a, justement, un papier de l'État dessus. Ben, voilà, c'est des gens comme ça. Ça va être en dernier ressort, en fait, qu'il faut régler. Mais si des gens ont vendu des domaines de l'État, par exemple, des rues, des domaines, des écoles ou des choses comme ça. Oui, c'est des choses à régler. Et donc, il faut justement que l'État, au lieu que l'État donne directement, peut-être que dans l'ultimatum que donne l'État, il faut peut-être, mettre un peu de nuance. Ceux qui ont occupé les rues, ceux qui savent avoir acheté les rues et tout ça, qui ont fait des pieds et des mains, passer par, comme on dit généralement, nous sommes au Togo, hein, ceux qui... En fait, nous sommes au Togo hein, pour avoir des papiers sur les rues de l'État. Il faut justement que eux-là, on puisse régler rapidement leur cas pour qu'on puisse voir pour le reste qui est du social, de la population et des habitations.
Oui, mais Jacques, le problème aujourd'hui, c'est que l'État doit recevoir même d'ailleurs ses réserves administratives pour des infrastructures publiques. Et bizarrement, l'État ne trouve pas alors de place pour exécuter les travaux de ces infrastructures.
Oui, c'est ce que nous sommes en train de dire, Pascal. Le vrai problème, vous savez, il faut toujours avoir une projection en long, en moyen et en court terme. Au fait, c'est ça. Et lorsque nous avons, par exemple, cette projection, on sait que, par exemple, dans 10 ans, dans le quartier, par exemple, Côte d'Ivoire-Copé, on peut ériger une école ici, on peut ériger l'hôpital ici, une clinique quelque part. Vous avez déjà un plan, quoi. Un plan bien, bien tracé et bien dressé. Et si là, quelqu'un quitte, qui va occuper encore cette place, l'État réagit en même temps. Je sais pas si vous comprenez. Ça devait être comme ça. Mais du moment où on n'a pas, par exemple, un plan directeur par rapport au quartier que nous avons. Nous avons parlé tout à l'heure des nouveaux quartiers qui se créent. Peut-être c'est un autre problème encore qui va se soulever encore demain. On l'a toujours dit. Si, par exemple, l'État avait la capacité de tracer d'abord les routes, de pouvoir avoir déjà les réserves, et après ce nouveau quartier, le reste là, les propriétaires terrains pourront vendre. Là, il n'y aura pas de problème. Mais le constat aujourd'hui, Pascal, le premier qui s'est installé dans le quartier, c'est lui qui trace la route. C'est lui qui envoie l'électricité. Je ne sais pas si vous comprenez. Et l'eau également, c'est lui. Et vous allez voir que la plupart de ceux qui viennent dans ce nouveau quartier-là se greffent sur lui. C'est-à-dire que l'eau, c'est lui qui donne de l'eau. Et l'électricité, c'est lui parce qu'il est le premier à amener le poteau dans le quartier. Donc les autres là viennent se greffer sur lui. Donc vous voyez, ces gens de personnes, demain leur dit de déguerpir parce que c'est un domaine de l'État. Vous voyez que c'est quand même un problème. Et l'autre aspect qu'il faut retenir, c'est que le Togolais aussi n'aime pas trop pousser loin pour avoir effectivement la vérité. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vers vous, il vous dit, bon, je vais vous vendre cette partie, les gens courent, ils achètent. Je vous donne un exemple. J'étais dans un quartier, où on avait érigé un cimetière quelque part. Mais finalement, je crois que les riverains avaient décidé de ne plus enterrer les gens là-bas. Un matin, un monsieur est venu acheter là-bas. Un monsieur est venu acheter, on a tout fait, il a refusé. Il a érigé un grand bâtiment. Et finalement, il est là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il dit non, que lui, il a quelqu'un de haut placé. Et finalement, il a érigé le bâtiment là-bas. Aujourd'hui, les riverains sont là. Et ils respectent, mais écoutez, ils vont faire quoi? Il y a un autre aspect. Vous prenez par exemple la réserve de Togo Pharma, pour ceux qui connaissent là-bas. Allez voir un bâtiment érigé également là-bas, à trois niveaux. Mais alors que c'est un domaine de Togo Pharma. Donc c'est pour vous dire que les gens, il a dit qu'on peut tout faire. Ils se disent, ils sont tout puissants. Donc ces gens de personnes-là, si l'État se lève aujourd'hui pour pouvoir récupérer ces terrains-là, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est eux qui ont commis l'erreur. Parce que vous savez que vous êtes dans l'erreur, mais vous êtes allé construire, vous savez que c'est un domaine de l'État. Mais parce que vous avez quelqu'un de haut perché, vous appelez la personne vous dit, bon, allez continuer, vous n'aurez aucun problème. Et l'autre aspect, comment on peut comprendre, Pascal, qu'une réserve, que les gens puissent détenir des titres fonciers d'une réserve?
Mais c'est paradoxal.
mais ça, c'est comment, mais ça sort de l'ordinaire. Ou bien, ça, on ne peut pas expliquer ça. Comment un domaine de l'État, qu'on puisse dire qu'on a des titres fonciers, hein, sur les domaines de l'État? Mais le Togo est extraordinaire. Donc, c'est pour vous dire quelque part, quand ce que Pascal et Godson et Didier disaient tout à l'heure, il faut procéder aux vérifications. Si ceux qui ont fait ça, s'ils sont encore vivants, qu'ils viennent s'expliquer. Parce qu'on ne peut pas comprendre, on dit que c'est la réserve de l'État. Comment Abalo ou bien Afia a fait pour obtenir le titre foncier?
C'est là la question. Comment telle ou telle autre personne a fait pour avoir le titre foncier sur une réserve de l'État? Et la question reste posée. Alors, nous allons quitter le sujet. On s'intéresse à ce rapport du département d'État américain sur la situation des droits de l'homme au Togo. Gosson, Liberté en parle ce matin. Vous écrivez « Rapport du département d'État américain sur la situation des droits de l'homme au Togo, arrestation et détention arbitraire, système judiciaire contrôlé et corrompu. »
Bon, Pascal, j'aurais mieux fait de rester dans mon village ce matin, parce que là...
Non, mais.
Vous me poussez dans mes derniers retranchements.
Non, mais attends, voilà, bien sûr, vous en avez parlé. Ayons aussi cette opportunité d'en parler.
Nous sommes à Liberté, heureux que ce soit le département d'État américain qui en parle. Parce que vous n'allez pas me démentir que Liberté a souvent dénoncé, ou presque toujours dénoncé, la corruption en général et celle au sein de l'appareil judiciaire particulièrement. C'est une gangrène. Et quand vous approchez ces juges, vous ne comprenez pas ce qui les pousse à escroquer les citoyens. Ce n'est pas toujours l'État qu'ils escroquent, non, mais les citoyens, pour des dossiers. Pourquoi cet état de choses? Aujourd'hui, le département américain en parle. En ce moment où nous sommes, nous avons en face un défi sécuritaire. Quand le ministre, c'est pas le ministre, je crois avoir fait cette suggestion lors d'un atelier, comme quoi, actuellement, on nous demande d'être en synergie pour faire face à la menace. Mais dans le même temps, Didier a son parent qui est en détention pour délit d'opinion. C'est pas qu'il a volé ou tué, délit d'opinion. Jacques a son cousin dans la même situation. Godson est concerné, Pascal est concerné. Comment dans cet état de choses, on peut agir en symbiose? Donc moi j'avais suggéré que notre président de la République, mon président, ait le courage de dire: bon, ils ont assez payé, maintenant, relaxez-les. Ça aurait été fait que ce rapport n'aurait plus de sens. Mais du moment que c'est écrit, c'est que ça existe, c'est réel. Et quand c'est réel, ce n'est pas une bonne image pour notre pays. Puisque nous y sommes. Pour ceux-là qui pensent que Liberté a toujours l'idée de détruire, non! il faut nettoyer les écuries d'OGIA. C'est notre travail. Donc, le département d'État a sorti le rapport. Certains nous ont contactés ce matin pour savoir. On leur a dit, liberté est là. Faites l'effort, c'est juste 250. Vous aurez toute la quintessence. Ou oui, alors, vous-même, vous allez, vous chercherez pour lire, parce que je ne peux pas tout résumer
d'accord.
sur ce plateau.
Non, c'est compris. Alors, Didier, quand on prend ce rapport, est-ce qu'on ne me dira pas que c'est un secret de polichinelle, ce que tous les Togolais savent déjà?
De toute façon, nous aspirons à un mieux-être en tant que Togolais et nous aspirons à un Togo de demain où toutes les libertés des uns des autres sont respectées. Donc à partir de ce moment-là, oui, c'est normal. Depuis quelques années, on a des situations dans le pays qui font que plusieurs d'entre nous, plusieurs de nos compatriotes se retrouvent dans des situations de détention. Là, carréfié par des Américains d'arbitraire, selon les conditions dans lesquelles ils sont détenus. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que c'est le pays qui est interpellé à travers les autorités directement pour qu'on puisse travailler sur des cas-là, si on peut au moins, dans le cas où on continue de détenir un certain nombre de personnes, qu'on les détienne dans les règles de l'art pour que ça ne soit plus des détentions arbitraires. Avant justement ce rapport où c'est sorti du département d'État américain, on a eu des situations dénoncées par la Cour de justice de la CEDEAO qui avait interpellé l'État togolais, qui a même rendu des condamnations de l'État demandant la remise en liberté d'un certain nombre de citoyens togolais depuis 2, 3, 4 ans. Mais ces gens se sont toujours en détention, sans procès. Est-ce qu'ils ont des visites de façon normale et régulière? Ça, on peut continuer à regarder de près. Mais si les États-Unis, qui d'un côté nous félicitent pour des réformes que nous faisons et nous donnent, nous élisent pour leur programme, le Millennium, le MCC et le Messier, de l'autre côté parle de détention arbitraire et de tout ça, je pense fondamentalement que c'est de l'interpellation. C'est on vous dit, ok, vous avez bien fait ici, mais regardez de l'autre côté également. Donc si nous devons être, ma foi, logique avec nous-mêmes, on prend, autant nous célébrons l'autre côté, autant nous prenons également les autres recommandations et que nous travaillons en interne pour que, oui, ceux dont on parle ne sont pas des étrangers, c'est toujours des Togolais, qu'on puisse rapidement travailler sur leur cas. S'il faut des procès, il faut organiser des procès dans leur dossier, on organise les procès. Si des gens sont coupables, on les condamne à des années d'emprisonnement. S'ils purgent leur peine, on les libère. Mais s'ils sont pas coupables, on les libère tranquillement. Et là, on ne parlera plus de détention arbitraire.
Didier, dans ce sens, excuse-moi Pascal.
Oui, Gosson.
La semaine dernière, lors d'un atelier du MCC, le ministre Stanislas Bamouni s'étonnait du fait que depuis 9 ans, le Togo remplit les critères pour être éligible au compact.
Mais
il ne comprend pas. Voilà par exemple une des preuves pour lesquelles, quand bien même tout est presque prêt pour que le Togo soit éligible
pour le compact, le conseil d'administration.
J'espère que cette fois-ci, on peut comprendre pourquoi ça traîne.
Et de l'autre côté, j'ajoute un autre élément à ton moulin, c'est que il y a Madame Morgan qui était en charge du MC et au Togo, MCC pour le Togo un temps, avait dit que le Togo fait beaucoup de réformes, mais les États-Unis attendent de voir la mise en application pour valider le compact pour le Togo. Ça aussi, c'est des informations nous détenons, que nous partageons. Ça pourra peut-être aider les autorités dans ce sens-là.
Jacques, est-ce que ce n'est pas un rapport qui doit nous interpeller par rapport à cette question des droits de l'homme?
Bien sûr. Vous savez, Doumaou, certains disent qu'il n'y a pas de détenus politiques. D'autres disent qu'il y a des détenus politiques. Et aujourd'hui, le rapport nous situe par rapport à ces détenus politiques. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez, le Togo, nous sommes devant une sauce où on ne sait pas si elle est salée, elle n'est pas salée. Bon, finalement, l'autre dit...
Mais il faut la goûter.
Oui, voilà. Il n'est pas donné à n'importe qui de goûter. C'est ça le problème. Vous voyez, si il y avait l'opportunité de goûter, chacun pourra dire, mais la sauce est salée ou bien la sauce n'est pas salée. Mais nous, Mahou, c'est certains seulement qui goûtent à cette sauce. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, je crois que la responsabilité incombe aujourd'hui au gouvernement. J'ai entendu Gonson dire tout à l'heure que Monsieur Bamouni Baba disait que lui, il est étonné que le Togo n'avance pas, quoi. C'est comme si le Togo regresse.
Et sur l'aspect compact.
Compact, voilà. Donc, s'il y a cette prise déjà de conscience au niveau du ministre, je crois que c'est une bonne chose, parce que c'est lui le responsable. Donc, c'est à lui maintenant de se dire, mais nous faisons des efforts, mais pourquoi on ne marche pas? Vous voyez? Donc, il faudrait aujourd'hui que celui qui démarre le véhicule, c'est lui qui saura si le moteur est bon ou pas. Mais nous qui sommes assis, nous on veut seulement que le véhicule avance et qu'on aille. Mais si celui qui conduit le véhicule te dit, bon, écoute, le moteur est bon, mais je n'arrive pas à lancer. Parce qu'elle voulait qu'on fasse quoi? Donc, on serait là. Donc, il faudrait aujourd'hui que lui, en tant que ministre qui reconnaît aujourd'hui que ça n'avance pas, bon, il sait à quelle porte frapper pour que ça avance. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le rapport est là. Ce n'est pas un truc caché. Donc, la responsabilité incombe maintenant à nos premiers responsables de prendre ce rapport-là et se dire, mais attention, on a dit qu'il n'y a pas les prisonniers politiques, mais on nous dit qu'il y a les prisonniers politiques. On veut avancer, mais on nous dit non, qu'on ne peut pas avancer parce qu'il y a ci et ça. Donc, asseyons-nous, regardons-nous les yeux dans les yeux et réglons le problème.
D'accord, parce que c'est le Togo que nous avons en partage et nous voulons son développement. Alors, chers confrères, nous allons en arrêter là pour ce qui concerne les débats. Nous reviendrons sur le sujet de l'environnement, surtout compte tenu alors de cette 300 milliards de dollars qui a été octroyé, enfin qui sera octroyé aux pays en voie de développement. Et c'est cette somme même qui est décriée insuffisante, même d'ailleurs compte tenu d'un certain nombre de paramètres. Nous reviendrons là-dessus sûrement demain dans l'émission Club de la Presse, mais tout de suite nous allons donner la parole à nos auditeurs, mais nous observons aussi une pause avec nos annonceurs. On revient juste après.
13.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Également, vous pouvez nous écrire sur notre WhatsApp, notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, mon frère.
Comment vous allez?
Nous, Abidogome.
Ah, pardon, le nom c'est?
Nous, Abidogome.
Nous, Abidogome.
Oui.
Allez-y.
Bon, je voudrais parler des élèves aux occupations illégales.
Oui, allez-y.
Il y a mon oncle qui est vers Abéji Télésou. C'est depuis 97 qu'il a construit là-bas. Il vit là-bas. 2017, on a nommé les brefs. Abouka, Véline, que c'est comme ça, on leur donne les mises à l'ébert. Et 2021, et c'est là qu'ils sont allés expliquer, on est venu leur mesurer s'ils vont leur retrocéder. On les a dit qu'on devait leur donner des petits papiers. Jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours comme ça. Mais elle a décidé un sol. Ils ont payé le terrain, ils n'ont pas occupé illégalement. Occupé illégalement, tu sais que c'est le terrain de l'État et tu viens rester. Ils ont payé. Mon oncle est de Sokodé.
D'accord.
Il a quitté Sokodé pour venir ici. Il n'est pas avec ça en 2017. Que l'État est venu planter les panneaux. Et il l'a construit après 20 ans que l'État a planté les panneaux. Il a payé l'argent. Aujourd'hui, on dit de partir. Il est annulé, il est à la retraite. Il est à la retraite. Il va aller, il n'a pas autre maison.
D'accord. Nous remercions. Merci beaucoup pour votre intervention. Autre auditeur, allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Votre nom c'est?
C'est Monsieur Nick.
Ah, Monsieur Nick.
Oui.
Allez-y. Allez-y.
Bon, c'est par rapport aux occupations illégales des domaines de l'État. Bon, vous voyez tout ce que les journalistes ont dit là-bas, ça montre un dysfonctionnement au niveau des services de l'État. On ne peut pas comprendre que depuis un long temps, l'État laisse faire des choses et un jour, l'État sort un communiqué comme quoi il faut retrocéder les trucs de domaine de l'État. Mais c'est ce que le monsieur vient de dire. Les gens la voient aller où? Au moins, si c'est des richissimes dont bon, on est en train de parler, on peut tâcher aujourd'hui, demain, on peut aller construire ailleurs. Mais quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans, 30 ans, a fait des petites économies, et bon, se retrouve dans ce domaine, mais lui, il va mourir. Donc, il faut que l'État revoie. Si les gens qui ont les moyens, on peut les laisser. Ceux qui n'ont pas les moyens, on peut les aider et les dédommager. On doit reprendre au service de l'État. Là, on ne peut pas dédommager. On peut prendre, mais dédommager ceux qui n'ont pas les moyens. Mais ceux qui ont les moyens, les groupes sont là, on les laisse comme ça. Merci pour l'émission.
Merci beaucoup, Nick, pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Gado. Comment vous allez? Bonjour. Le plateau aussi vous salue.
Les gens allons voir s'il y a la crédibilité avec l'État. Aujourd'hui, on va voir ça. Si l'État va laisser la minorité rester sur les réserves et chasser la majorité, on va voir. Si dans un pays, on s'occupe seulement d'elle, c'est le son, élection, les réserves, on s'en fout. Voilà ce qui arrive. Ce n'est même pas les réserves, il y a encore les écoles, les hôpitaux, tout ça. Si l'État est fatigué, il faut passer la main, on va voir, vous pouvez revenir. Et c'est pas un crime. Donald Trump est parti, on l'a vilipendé, il est revenu. Vous, si vous n'avez pas peur, partez, on va voir. Laissez, bonne journée.
Bonne journée, Gado, merci pour votre intervention. Allô? Allô, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Oui, comment vous allez?
C'est
Basile.
Oui.
C'est pas Basile, ces derniers temps, votre radio fait toujours du bruit à côté de vous. Je ne sais pas comment vous réglez le volume.
J'étais là en train de vous écouter avec le cul. Et je ne sais pas si vous allez me décrocher ou pas.
Oui, maintenant, vous a décroché, allez-y.
Maintenant, là, est-ce qu'il s'active encore?
Non, c'est bon maintenant.
Oui.
Et allez-y, allez-y, on vous écoute.
Oui, bon, pour dire à l'État, c'est eux qui ont laissé cette situation de réserve là, un État normal, la terre n'appartient pas aux collectivités. Comme ils savent que nos ressources vont leur appartenir à eux seuls, ils ont laissé cette terre là aux collectivités. Ils savent qu'ils vont vendre tout. Même là où ils vont dormir, la natte sur laquelle même ils vont dormir, là, ils savent qu'ils vont vendre ça. Qui a l'argent pour acheter? C'est eux qui vont acheter. Si ils sont fatigués d'en acheter, ils vont appeler les Chinois, les Japonais, les Libanais, venir acheter le reste. Pendant ce temps, le Togolais, Landa, lui, va végéter. Il va végéter dans la misère. Cette politique ne développe pas un pays. Même les Libanais, les Chinois, les trucs qu'ils vont appeler à acheter le reste là, quand ils font quelque chose là, ils rapatrient. Comme eux aussi, ils vont mettre dans Panama, PPC et consorts là. Le Togo seul est victime de tout ce qu'ils font comme gouvernance dans notre pays. Pourquoi est-ce que nous on a mérité ça? Pourquoi est-ce que nous on a mérité ça? Mais personne ne se demande. Personne ne se demande. Pourquoi nous, on va mériter ça?
Merci beaucoup, Basile, pour votre intervention. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est M. Nyamavo.
Bonjour.
Oui, allez-y.
Hey, c'est Nyamavo.
Oui, allez-y.
Oui, vous allez constater que ce sont les camions même qui nous tracent les routes, alors, oui. C'est-à-dire vers les banlieues ou là-haut, les nouveaux quartiers nets. On va te dire que c'est des zones non approuvées. Comment se fait-il que cette zone est non approuvée et l'État sont devenus là-bas? Bon, ceux qui tracent les terrains, les kilomètres aussi, laissent les réserves. Et comme a dit, si on peut chasser les petits et laisser les gros morceaux, parce que on nous montre les gens déjà qui sont de la boîte, qui ont occupé des terrains, qui ont construit des immeubles, pas possible. Moi, depuis moi, je suis le collège, je vois depuis, comment l'appelle-t-on,
l'état-major jusqu'à la tête de mes deux. Je me dis, l'État a pris une bonne portion pour laisser le peuple tranquille. Je crois que ça, c'est le domaine de l'État. Mais si on va rentrer encore, les gens ont acheté des terrains, ils ont payé, la cadastre a acté, les témoins ont acté, l'État a mis ses tampons. Et combien leur dit qu'ils n'ont pas déguerpi? Voilà pourquoi il faut l'alternance. Bonne mission.
Merci pour votre intervention. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Yannick depuis Agoué. Yannick, votre radio à côté de vous fait un peu de bruit. Si vous pouvez diminuer son volume, ce serait intéressant. D'accord, allez-y, Yannick.
Oui, je voulais intervenir concernant la voix du conseiller là.
Allô? Oui, allez-y, je vous écoute.
Oui, je vais intervenir sur la base de cause.
Oui, allez-y.
Après la pharmacie, il y a écrit 8 de 70 mètres sur la voie de Tocito Kondi là. Donc, dès que vous dépassez à Tocito, la voie là n'atteint même pas 40 kilos, 40 mètres. Les gens ont construit des immeubles et il y a des chantiers en cours. Je ne sais pas si la mairie ne veut pas intervenir, veut laisser les gens construire avant de casser. C'est ça, mon souci.
D'accord. Merci Yannick pour votre intervention. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Canal FM.
Nestor.
Oui.
Vous allez bien?
Oui, je vais bien.
D'accord, allez-y.
Oui, pour les accidents, les journalistes ont tout dit, mais j'aimerais ajouter le fait que les chauffeurs de taxi font souvent le haut bataille au niveau de la conduite. C'est-à-dire que, compte tenu de la chèreté de la vie, les chauffeurs, même fatigués, continuent pas à conduire pour pouvoir joindre les deux bouts. La question, est-ce que l'État a mal fait de bitumer les routes? Autant il faut développer les infrastructures routières, autant il faut agir sur les prix des aliments de base et diminuer les prix. Donc, la charité de la vie revient encore. Pour les solutions, il y en a plusieurs, mais la principale reste la bonne volonté de l'État. Merci, Canal FM.
Merci, Nestor, pour votre intervention. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
On vous parle en grâce, je vous salue tous.
Oui, c'est l'évangéliste Senghor.
Voilà.
Allez-y.
Bon, je voudrais lancer un appel à toutes les composantes gouvernementales, surtout le chef de l'État, s'il vous plaît. Il est le premier responsable de ce pays. Vous voyez, le dictateur nord-coréen, il est tout le temps avec sa population dans la pluie partout. Bon, le Togo, je le dis, nous sommes dans une situation tout à fait difficile. Nous, les hommes de Dieu, les pasteurs, nous sommes fatigués. Le président lui-même est fatigué. Tout le monde est fatigué. Mais vous savez, il est notre papa. Et je l'interpelle, s'il vous plaît, s'il a l'écoute, il n'a qu'à sortir là. On sait qu'il fait des efforts, mais il n'a qu'à sortir parler à la population togolaise. Hein? C'est la moindre des choses. Parce que quand papa parle à ses enfants, il y a de l'espoir. Mais s'il y a un silence absolu, s'il vous plaît, il faut que ses conseillers puissent le dire. C'est très important. Pour terminer, j'interprète tous les Togolais également de ne pas faire le choix. Nous avons un beau pays, hein. Nous avons un Togo. C'est un Togo, tu vas prendre 300, manger à Inolu, jusqu'au soir, tu vas manger. Vous voyez, donc, ne perdons pas le choix. Ça va, ça ira. D'accord. Merci beaucoup.
Merci pour ce mot d'espoir. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, je suis Monsieur Komi.
Monsieur Komi, vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Kégué.
De Kégué, allez-y.
Je voudrais dire au conseil des réserves qu'il y avait un préalable déjà fait par le maire Aboka quand il était président de la délégation spéciale. Et la mise en demeure des gens a été faite. Mais il y a les plaques de mise en demeure qui sont là toujours aujourd'hui, occupées par des constructions. Mais les nouveaux recenseurs là ont fermé les yeux sur tout ça là. Parce que c'est ça, quelqu'un dit qu'on s'attaque aux mineurs pour laisser les gros poissons. Ils n'ont qu'à revoir.
D'accord.
Parce qu'on n'a pas de place. Placette même dans les quartiers. Les funérailles se font sur la voie. Je pense que vous m'avez déjà compris.
Vous êtes à Kégué.
Ouais.
Merci beaucoup, Kami, pour votre intervention. Et je pense que vous êtes le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission Club de la Presse de ce lundi 25 novembre 2024. Chers confrères, nous allons revenir en studio pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Jacques, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur l'actualité et vous avez vu quand même que la majorité s'est exprimée sur la question de réserve administrative. Ça veut dire que ça tient à cœur aux populations, aux citoyens.
Oh, bien sûr. Tout au début de l'émission, j'avais dit ça à Pascal, que le premier responsable du pays avait même parlé de ça, que le problème foncier constitue une bombe à retardement dans le pays. Le président de la République l'a reconnu. Donc c'est pour vous dire que le problème y est. Il faudrait maintenant chercher des solutions à ce problème. L'État, c'est vrai, a le droit de récupérer les réserves, mais il faudrait que l'État utilise également une méthode humaine pour pouvoir régler ce genre de problème, parce que ça risque de créer des soulèvements inutiles. Donc à l'État de savoir, c'est l'État, c'est eux qui nous gouvernent, c'est eux qui nous gèrent, ils sauront le mois venu comment faire effectivement pour faire la part des choses, comme quelqu'un le dirait, et séparer le livret et le vrai.
Jacques, je reste avec toi pour votre note de fin d'émission.
Je voudrais sincèrement féliciter, je crois, c'est l'hôpital de Kara qui veut actuellement construire un centre pour aider nos frères, nos sœurs de l'intérieur par rapport aux ceux qui font le dialyse. Donc je crois que c'est vraiment une très bonne chose. Inviter une fois encore l'État à amener ces services sociaux là à l'intérieur du pays. Il y a 4 centres de cancérologie déjà à Lomé. Si on peut également amener un centre vers l'intérieur du pays, ça serait vraiment une très bonne chose. Donc, je ne sais pas quel est, j'oublie le nom de l'association là qui est en train de vouloir construire ce centre-là à Kara. Je voudrais vraiment donner une note 9 sur 10
9
à
sur
ce
10.
Centre-là.
Didier?
Oui, je vais me prononcer également toujours sur la question des réserves. Je reste dans ma logique. Je dis, pendant que l'État essaye maintenant de corriger l'erreur, on va dire là, l'erreur provoquée ou autorisée par ses agents à lui, il faut que l'État procède déjà par des vérifications en interne avant de pouvoir essayer de corriger. Et pendant qu'on y est, les zones si proches de Lomé, un auditeur a appelé de... de Covier sur la voie qui va avec Covier, donc des zones comme ça, Apecito, Nuepe, Diagblé et tout ça, qu'on essaye maintenant de commencer par corriger et que l'État soit présent dans ces zones-là. Parce que des fois, l'absence de l'État permet justement à ces choses-là de se faire. Et après, quand l'État va venir, l'État sera dans un no man's, c'est pas no man's, l'État n'aura pas de place. L'État deviendra donc un sans domicile fixé dans ces zones parce que l'État même a décidé de ne pas y être. Pendant que les gens attendent l'État actuellement, il faut que l'État aille là pour essayer maintenant de s'implanter, le temps de corriger ce qui se passe dans le Grand Lomé. Mais si on se tait, on veut maintenant revenir dans le Grand Lomé. D'ici à 2025, on veut corriger, récupérer les réserves. Le temps qu'on arrive dans les zones là, imaginez ce que ça peut donner et on ne fait que reporter les problèmes. Donc il revient justement à l'État travailler de façon conséquente à ce que autant on corrige, autant on essaye de remédier à des erreurs et pendant qu'on cherche les coupables dans les administrations et dans les services qui ont donné des documents et ont autorisé des gens à occuper ces domaines.
D'accord. Votre note de fin d'émission?
Je n'en ai pas, je passe.
D'accord. Gosson?
Oui. Autant j'ai écouté les auditeurs, autant l'État veut récupérer une bonne partie des 68% des réserves, autant l'État doit montrer l'exemple pour dédommager les populations dont les terres ont été occupées pour cause d'utilité publique. Je veux nommer le siège de la cour d'appel, le siège de la nouvelle gendarmerie. C'est près de 49 hectares que l'État a pris aux communautés.
49 hectares.
Une décision
trois décisions sont sorties. Première instance, cour d'appel, cour suprême. Dans lesquelles on reconnaît qu'effectivement l'État doit dédommager. Mais les propriétaires se meurent les uns après les autres. Il faut que, autant l'État veut exiger la rétrocession des réserves, autant il doit s'acquitter de ses obligations quand il occupe des espaces pour cause d'utilité publique.
D'accord.
Et pour ce qui est de la note, je donne 1 sur 10 au chef du gouvernement.
1 sur 10
1 sur 10. Je voulais même dire 1 sur 20.
Non, c'est sur 10.
Non, parce que, 10, Pascal, oui. Nous sommes le 25
aujourd'hui, novembre. 25 novembre, oui.
Il nous reste combien de temps pour que la loi de finances 2025, d'abord la loi de finances rectificative et celle de 2025, soit déposée à l'Assemblée nationale pour étude?
Non, on est en transition, toi. Non, aussi. Oui.
Donc, ça veut dire qu'on doit s'attendre à ce que ce soit une ordonnance soit se prenne pour continuer.
On a une transition
que après la remise de la décision de la démission, on a attendu 3 mois pour former le gouvernement.
Tu parles comme si nous sommes dans les ordonnances.
On est dans la transition.
C'est la transition.
C'est la transition. Ce qui est sûr, c'est 1 sur 10. 1 sur 10, c'est nul. Hein.
Ouais.
Ça fait nul.
0,5 sur 10.
Pascal, vous avez dit. Dis à Godson.
Oui.
Nous sommes en transition.
D'accord, je pense qu'il vient de l'écouter. Merci, Jacques, d'être passé dans cette émission. Didier Assorba, merci d'être passé dans cette émission. Gosson Ketomanyan, merci aussi d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés. Grand merci à vous, puisque vous avez contribué à ce débat avec votre réflexion, bien sûr. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain, mardi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.